Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi, bien sûr, à partir de 11h sur votre radio. Et nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Le M66 n'est manipulé par personne. Le M66, c'est la voix des mères qui pleurent leurs enfants. C'est la voix des étudiants sans avenir, des travailleurs exploités, des prisonniers politiques oubliés. Nous n'avons besoin ni de Paris, ni de Washington, ni d'aucune capitale étrangère pour dire que nous voulons la liberté dans notre pays ou dans notre propre pays. C'est un extrait des propos de Yves Edo Agbodjan, connu sous le nom de Togbevi PPC, et porte-parole du mouvement du 6 juin, le M66. Il porte la voix de cette organisation citoyenne née des récentes contestations populaires, bien sûr, au Togo. L'interview a été accordée à nos confrères de Deutsche Welle en marge lors de l'ouverture de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le mouvement entend profiter alors de la tribune internationale qu'offre l'ONU pour alerter sur la situation politique au Togo, exiger davantage de démocratie et réclamer la libération des prisonniers politiques. Comment appréciez-vous cette démarche du mouvement? Trouvera-t-il d'écho favorable? La question sera posée à mes confrères journalistes. C'est bien sûr ici en studio avec moi, et le sujet bien sûr nous intéresse. Nous poserons également d'autres sujets liés à l'actualité telle qu'évoquée par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 26 septembre 2025. Et bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde. Jérôme Dakouté est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niam Togo, et puis Radio Koktoazi à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre plateforme ou notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Le Bénin. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. C'est avec alors mes confrères journalistes en studio, avec moi aussi des analystes, bien sûr, qui sont mes invités pour ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation, chers confrères et aussi chers invités. Germain Pouli, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Grâce à Dieu, ça va, on remercie le Seigneur.
Dieu merci, ça fait plaisir de vous recevoir dans cette émission.
Merci pour l'invitation, c'est un énorme plaisir pour nous aussi de partager ces moments avec vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Gabin Adjaro, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour au plateau, bonjour à mon grand frère Germain Pouli, et bonjour surtout aux techniciens aussi, Kiki Sousa et Jérôme Dakoucha, qui permettent quand même aux auditeurs et aux internautes de nous suivre, et bonjour aux Togolaises et aux Togolais, que Dieu bénisse le Togo.
Que Dieu bénisse le Togo. J'ai toujours fait le constat, et à chaque fois vous avez envie de porter, le casque. Est-ce que c'est pour vous permettre de bien écouter ce que vous dites à l'antenne?
Oui, c'est pour me permettre de bien m'écouter, mais aussi et surtout de bien vous écouter aussi, parce que bon, j'aime souvent avoir le retour de ce qu'on est en train de dire, et ça sonne mieux dans le casque.
Justement, ça sonne mieux dans le casque. Ah, oui. Il semble que la radio aussi, c'est ça.
Ah oui,
c'est le casque.
C'est ça.
Merci d'avoir accepté notre invitation, Gabin. Elam Dameda, bonjour.
Oui, bonjour, Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je vais bien.
Vous ne préférez pas le casque?
Non, je vais bien comme tous les Togolais. Et non, ça va. Sans les casques, ça va.
Je sais que Germain Pouli, c'est un grand homme aussi de la radio. Il a fait la radio, il continue alors de faire la radio. Mais toujours est-il qu'il ne porte pas alors de casque. J'aime bien.
Ben, j'attends le bon moment. Je crois qu'à partir de midi, on va porter les casques pour mieux écouter les intervenants.
D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'homme. Bonjour.
Bonjour Pascal Lussou, merci de m'avoir invité.
Mais je vous ai senti quand même très calme et très pâle là.
Ouais, j'essaie de réfléchir.
Réfléchir à quoi?
Réfléchir au pays, à tout ce que nous allons dire ici. Je réfléchis un peu aussi à toutes les réactions que nous avons dans ce studio. Quoi qu'on dise, nous avons un multipote intéressant. Ici au studio, nous avons Germain Pouli qui a une grande expérience, qui a fait la radio. Qui nous donne régulièrement de très bons conseils. Nous avons Gabin Adiaho, qui aime souvent porter des casques. Il aime se faire remarquer, c'est bien. J'apprécie son intelligence. Je le suis régulièrement sur les médias. Lui-même ne sait pas que je le suis, en dehors d'ici. Il fait de belles analyses. Quand il parle, je me dis, il se cultive bien. Et aussi, je pense, je réfléchis à ce que Elam dit souvent à ses positions, qui sont teintées souvent de sagesse. Et il porte régulièrement des gants. Et c'est tout ça qui constitue le métipote. Et moi, je me dis, je dis quoi dans tout ça? Donc, moi aussi, j'essaie de donner mon point de vue.
Vous
essayez de la glaive souvent. Okay.
Vous essayez de donner votre point de vue. Merci beaucoup. Merci pour d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez très bien, c'est une plateforme sur laquelle on s'exprime. Et là, vous savez que déjà à partir de midi, nous donnons aussi la parole à nos auditeurs pour s'exprimer aussi sur des sujets débattus ici au Club de la Presse, parce que c'est comme ça que nous devons construire aussi la démocratie, n'est-ce pas, Germain Pouli?
Oui, tout à fait, c'est notre modeste contribution à la construction de l'édifice qui est le nôtre, notre pays, notre démocratie, nos libertés, notre développement, notre patriotisme et tout ce que vous voulez qu'on peut promouvoir comme valeur et qualité à travers le Club de la Presse.
Merci.
Quelques mots, c'est des retours que nous avons la plupart du temps venant de l'Occident, des États-Unis, de la France, de la Suisse et tout. Ça prouve à suffisance que les Togolais qui sont à l'étranger, la diaspora, est prise de l'actualité du pays. Et quand arrive le moment du Club de la Presse, eux tous ils sont câblés parce que bon, c'est l'une des émissions les plus écoutées quand même au pays. Et donc, même à l'extérieur aujourd'hui, on constate que les Togolais suivent beaucoup cette émission. La preuve est même qu'il y a certains qui appellent, qui interviennent souvent et c'est très bien. Peu importe là où on se trouve, il ne faut jamais oublier la mère patrie. C'est très bien.
C'est très bien. Et même ce que l'un des principes de cette émission, c'est que même si nous ne sommes pas d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec vous, voilà. Je vous laisse quand même dire ce que vous avez à dire, pourvu que cela respecte un certain homme comme on le dit, que ça soit emprunt à l'ordre de courtoisie. C'est très important et c'est ce que nous demandons toujours à nos auditeurs. Quand ils prennent aussi la parole, il est très important que ça soit emprunt à l'ordre de courtoisie. Et là, puisque c'est justement dans le respect mutuel que nous pouvons facilement construire cette démocratie que nous sommes en train justement de construire. Monsieur Nyamiku Koko, bonjour.
C'est Monsieur Nyamiku Koutou.
Ah, Koutou plutôt.
merci beaucoup Pascal.
Et comment vous allez?
Je vais très bien.
Voilà, et c'est vrai, vous êtes alors l'un des secrétaires général adjoint, bien sûr, de Saint-Banc, bien sûr. Et nous allons parler alors de cette grève de 72 heures que vous avez lancée depuis, bien sûr, le mercredi, c'est bien ça?
C'était ça, c'était mercredi le 24, hier jeudi 25, aujourd'hui 26.
Voilà, alors comment se déroule alors cette grève?
Bien, la grève s'est déroulée, puisque je le mets au passé. La grève s'est déroulée.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne continue plus?
Aujourd'hui, ça ne continue plus. Dans la mesure où le Saint-Banc est une association et syndicat responsable, Nous avons pu analyser la situation. Le premier jour de la grève, ça a été suivi, au moins 90%. Nous ne pouvons pas appeler à une grève et espérer que c'est la totalité qui va se mettre en branle, qui va se mettre dans la grève. Bien sûr, il y a des intimidations par-ci, par-là. Alors qu'en réalité,
intimidations venant de qui?
Mais il y a des intimidations venant, par exemple, des patrons. Des patrons de l'entreprise. Vous aurez appris quand même que du moment où le syndicat s'est mis en grève et les autres sociétés, banques et compagnies d'assurance sont mises en grève, nous avons appris que les éléments de Sunu Bank à qui nous luttons sont allés au travail.
Alors, est-ce que vous dites là justifie ce que le journal Harakiri a écrit ce matin? Le journal écrit « Grève des banquiers, Sunu Bank accusé d'intimider ses employés ».
Effectivement, nous pouvons l'accepter comme ça, que Sunu Bank accusé d'intimider ses employés. Et pour quelle cause? Pour quelle cause? Nous étions passés ici à Canal FM pour dire toutes les anomalies qui se sont passées au niveau de la gestion, au niveau de Sunu Bank. Et le monde entier a compris ce que nous avons dit. Même aujourd'hui, lorsque nous avons parlé que 12 milliards de francs sont sortis de la banque pour aller au Sénégal, sous prétexte que l'État sénégalais veut de l'argent pour construire des bâtiments pour la gendarmerie, équiper l'armée avec des véhicules et autres armes, l'État sénégalais ayant appris cela a ouvert une enquête judiciaire. Ça, c'est la responsabilité d'un État. Alors que ce montant a atterri sur le compte d'une personne physique, ce n'est pas l'État sénégalais. Donc, l'État sénégalais veut voir clair dans cette affaire. Donc, au lieu qu'en ce moment, par exemple, que les camarades de Sunu nous suivent le mot d'ordre de grève, bien sûr, on ne peut pas leur imposer ce que nous avons dit. Ils sont allés au service sur les intimidations des responsables de Sunu Bank. Voilà la chose.
C'est comme ça que la situation se présente. On sait que déjà après votre premier jour de grève, il y a le ministre du Travail qui a fait une sortie et qui s'est prononcé, bien sûr. Et vous demandez même d'ailleurs de suspendre la grève parce que les conditions ne sont pas réunies pour avoir une grève. Et concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, si vous me dites que la grève ne continue plus, est-ce que ça veut dire que les propos alors du ministre ont trouvé justement écho favorable chez
nous? Non. Les propos du ministre n'ont pas trouvé écho favorable chez nous. Disons que le Saint-Banc est une association et syndicat responsable. Nous-mêmes, nous avons pu évaluer la situation. Le premier jour, le 24, nous avons obtenu au moins 90%. La quasi-totalité des banques était fermée, en plus des compagnies d'assurance. OK? Donc, mais quoi dire encore? Nous avons obtenu quelque chose. 90%, ce n'est pas 100%. On ne peut pas obtenir les 100%. 90%.
Alors, quand vous dites 90%, vous l'avez mesuré par rapport à quoi?
Effectivement, nous avons des syndicalistes un peu partout dans les banques et dans les compagnies d'assurance. Ils sont là pour nous envoyer les statistiques. Nous avons vu, nous avons pris des gens qui sont allés dans les banques, même à l'intérieur du pays, pour évaluer la situation. Ils nous ont dit... au niveau de Sokodé jusqu'à Karadapan, tout est nickel, c'est fermé à 100%. À 100%, hein, tout est fermé. Compagnie d'assurance comme banque. À Lomé, c'est diversement. Et c'est plutôt à Sunu Bank que nous avons constaté cela. Aura Bank a fermé les portes complètement. IB Bank, la BTCI ancienne, en plus des autres, et BDM, l'UTB, etc. les banques. À l'exception de Sunu Bank. Est-ce que vous voyez? Donc je dis, à ce niveau, au niveau sur le plan statistique, nous avons gagné. C'est ça notre joie. Donc, par rapport au communiqué du ministère, oui. Ce n'est pas le communiqué du ministère qui est venu influencer, non. Nous-mêmes, nous avons pris sur nous, après analyse, par rapport à la journée d'hier, qu'au moins nous étions à 70% d'observation. À 70% par rapport à la journée d'hier. Le communiqué du ministère du Travail n'a pas influencé sur la chose. Les gens étaient toujours là, puisque hier matin, nous avons fait appeler les camarades à une assemblée générale extraordinaire. Les camarades ont tapé sur la table que la grève continue. Que la grève continue.
Alors, mais comment vous appréciez quand même cette sortie à l'heure du ministre?
Chacun joue son rôle. C'est l'État à son niveau. Nous, nous sommes des syndicalistes. Le ministre peut sortir et dire tout ce qu'il veut dire. On ne peut pas le lui refuser. Il a un droit de parler. Il a un droit de dire ce qu'il veut dire. Donc le ministre a dit ce qu'il a dit, puisque au demeurant, c'était mercredi, la veille, c'était mercredi, le jour du premier jour de grève. Donc mardi, nous étions avec le ministre. Ok, nous étions avec le ministre. Le ministre nous a dit ce qu'il devait dire en communiqué. Il l'a dit. Et nous avons dit, ok, bon, monsieur le ministre, on ne peut pas vous empêcher. On ne peut pas vous empêcher. Le ministre a sorti son communiqué. Nous avons continué la grève. Nous avons continué la grève. Mais en tant que responsable, en tant que responsable syndical, nous déplorons aussi quelque chose, les empêchements que les gens pouvaient avoir, ont eu effectivement ce pas qu'ils pouvaient avoir. Ils ont eu des empêchements. Ils ont été bloqués parce que les banques ont fermé. Les dépôts, les gens qui travaillent, qui continuent, parce que la grève, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le secteur d'activité. Donc, tous ces gens-là qui continuent de travailler et qui doivent rapatrier les fonds, les collectes des fonds au niveau des banques sont bloqués. Sont bloqués. Les compagnies d'assurance, je vous dis que c'est à 100% à leur niveau. C'est à 100% à leur niveau. Nous sommes, parce que la rentrée est complexe, il y a toujours la rentrée et les gens se préparent pour la rentrée. Les gens se préparent aussi pour la fin du mois. Ils sont préparés pour la fin du mois pour aller toucher leur solde dans les banques. Après toutes ces analyses, nous avons dit hier soir à 18h, suite à un conseil syndical extraordinaire et le conseil, puisque le bureau de ces banques ne fonctionne par rapport à nos bases. L'Assemblée générale, le conseil syndical. Et le conseil syndical, hier, a pris la décision que non, bon, d'accord. Les gens ont évalué un peu partout les comportements. Ils se sont dit heureux que la grève a été suivie. Donc, à 18h, il faut arrêter la grève et qu'aujourd'hui, à 7h30, comme d'habitude, c'est l'heure d'entrée dans les services, c'est l'heure de reprise de travail. Et qu'à 7h30, aujourd'hui, les camarades puissent reprendre le travail normalement.
Est-ce que ça veut dire que, bien que vous faites alors la grève, vous réfléchissez ou vous pensez toujours aux clients?
Nous réfléchissons et nous pensons toujours aux clients. Nous réfléchissons et nous pensons toujours aux clients. Mais ce qui se passe à Sonobank, c'est une alerte. C'est une alerte en feedback que nous avons faite à tous les opérateurs économiques. Aujourd'hui, si vous avez 10 millions seulement, je donne cet exemple, hein, ceux qui ont des DAT, ça s'est envolé. Ça s'est envolé. Tu as 10 millions. Tu ne peux pas aller à son banque aujourd'hui pour reprendre les 10 millions comme tu veux.
Et pourquoi?
Pourquoi? L'argent est où? C'est ça le problème. L'argent est où? Bien que nous allons dire que son banque a ouvert, c'est pour espérer encore collecter des fonds. Mais les charges à l'intérieur sont là. Les charges, la manière dont ils rapatrient les fonds. Ce système demeure toujours à l'intérieur de la banque. Nous sommes venus ici dire que des factures de digitaires, parce que vous avez des ordinateurs ici, peut-être vous ne les avez pas loués, vous les avez payés. Mais sur la banque ne paie pas les ordinateurs, ils s'en vont louer. Et qu'en fin de compte, infini, à la fin de l'année, ils dépensent au moins 1 milliard de francs pour cette exploitation-là. Lorsque vous dépensez 1 milliard de francs et que vous avez votre seul logo Canal FM ici, sur nos banques, et que vous payez des centaines de millions pour ça là seulement. À qui est-ce que vous payez ces centaines de millions? C'est de la gabagie, c'est de la dispersion, c'est de la foule, c'est du foule organisé à l'intérieur de ce mouvement. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Et maintenant, vous passez outre ces choses pour licencier 42 personnes. Vous licenciez 42 personnes.
Ah, monsieur Nyameko, il me dit que c'est pour raison économique que le licenciement a été fait.
Le licenciement a été fait. Ce sont eux qui l'ont prononcé comme ça. Nous avons dit ici que la commission bancaire est passée. La commission bancaire est passée avec des conclusions suffisantes. Ce n'est pas sur la base de la masse salariale que ce licenciement est fait. C'est sur la base de la mauvaise gestion. Vous envoyez 400 millions à l'intérieur du pays, à Takwame, nous l'avons dit ici, 400 millions à une personne physique, ils sont allés rapatrier les fonds. Et quelques jours après, la personne décède. C'est ici, au Togo. Et quelques jours après, la personne décède. Est-ce qu'ils ont pu récupérer les 400 millions? Or, la banque travaille sous l'effet de la conclusion de la monnaie, c'est-à-dire la banque elle-même crée de la monnaie. Lorsque vous envoyez un crédit à quelqu'un et que le crédit est remboursé, en ce moment, vous avez votre commission. La commission constitue la création de la monnaie qui vous permet encore de réinvestir, de continuer à fonctionner. Vous travaillez sur ce système. Maintenant, la commission bancaire a démontré qu'au moins 30 milliards, au moins 30 milliards de fonds ont été soustirés qui ne seront jamais remboursés. Qui ne seront jamais remboursés. Où est la banque aujourd'hui? Même s'il y a des prêts interbancaires. Il y a des prêts interbancaires.
Monsieur Yamiko, c'est vrai que quand vous faisiez justement cette grève, il y avait un objectif bien défini. Est-ce qu'aujourd'hui l'objectif est atteint?
Nous disons que cet objectif, même s'il n'est pas atteint, il est atteint de moitié parce que les gens nous ont compris quand même. Les gens nous ont compris par la diffusion de ces informations. Et c'est qu'au même moment que nous faisons la grève, nous mettons en alerte les gens afin qu'ils comprennent en réalité le message que nous sommes en train de passer. Donc,
et vous pensez que le message est passé?
Le message est passé complètement. Le message est passé sur les acteurs économiques. Et c'est à cela que nous avons pensé également en disant que non. Mais si nous-mêmes, par notre propre comportement, nous faisons frein, nous faisons un blocage à cela d'aller toujours à la banque, d'aller toujours à la banque. Ceux qui vont retirer les sous, ils sont bloqués. Nous disons qu'à ce niveau, nous ne sommes plus responsables. Parce qu'un jour même de grève, un jour, une journée de grève, nous évaluons les conséquences collatérales.
Et quelles sont ces conséquences?
Mais les conséquences, c'est quoi? Quelqu'un, il va dire non, c'est fini pour moi. Je ne vais plus mettre de l'argent en banque. Les gens vont continuer par le passé à thésauriser de l'argent. À thésauriser de l'argent. Parce que, en réalité, si tu t'en vas mettre la banque.
Est-ce que c'est ça l'objectif?
Mais non. Mais au fait, notre objectif, c'est qu'on soit écouté. Notre objectif, c'est qu'on repasse encore à la table de négociation. Parce que si la grève, ils ont dit qu'ils ont fait des licenciements pour motifs économiques. Nous disons non. Et la commission bancaire a dit non. Ce n'est pas ça, le motif économique. Le motif est ailleurs. Allez chercher le motif. Si vous licenciez 42 personnes, alors que dans la banque aujourd'hui, des gens allègrement continuent par percevoir 3 millions, 4 millions, 10 millions. Et ceux-là ne sont pas inquiétés. Un chauffeur est-il un banquier? Un chauffeur qui se met, qu'on a mis sur une liste de licenciement, est-il un banquier? Des femmes, des caissières, au moins une trentaine de femmes dans cette liste, qui sont des pères et mères, parce que des gens ont perdu leur mari. Et c'est elles-mêmes qui sont responsables de la gestion du foyer, en même temps qu'il y a les enfants. D'accord. Est-ce que... Oui.
J'aimerais parler. C'est vrai, nous avons écouté M. Nyamiko Koudjo se prononcer justement sur cette grève. Et oui, nous suivons même d'ailleurs de près cette actualité. Et, au-delà de tout, bien sûr, il a parlé des conséquences collatérales tout de suite. Et, au-delà de tout, c'est le client qui perd.
Oui, c'est le client qui perd. Le client qui, à tout moment, a besoin d'être accompagné par les services financiers, ne serait-ce même que faire un petit retrait ou être remboursé par un chèque, c'est assez compliqué. Encore que ces derniers temps, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'affluence dans les banques, même quand c'est ouvert normalement. Et quand c'est fermé, ça va être encore plus catastrophique. Donc on aurait vraiment souhaité que les employeurs et les syndicats s'entendent. Et moi, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a eu quand même une certaine évolution? Parce qu'au départ, on a parlé de plus de 100... employés qui devaient être
120 licenciés, c'est ça.
Voilà, et après on nous parle d'une quarantaine finalement. Est-ce que la chose évolue au niveau des négociations?
Regardez un tout petit peu les statistiques du personnel à Sunu Bank. Ils sont au moins à 190. Ils ont prévu licencier 120. si effectivement, sans les pressions du syndicat et autres personnes, si les 120 sont mis à la touche, qu'est-ce que vous pensez? Il y a les intérimaires. Il y a les intérimaires qui vont prendre un peu partout pour les mettre dans la banque et les payer des miettes. Parce que ces intérimaires travaillent par ricochet par rapport à deux structures de placement. À deux structures de placement. Donc, la banque paie à la structure et c'est la structure qui se retourne pour payer maintenant, par exemple, ses intérimaires. Donc, ils vont payer des miettes. Cela veut dire que le système d'exploitation qui est mis en place par le vol continuera davantage. C'est donc la mesure. Donc, en licenciant 120, si on a, ils ont atteint cet objectif, il restera combien?
110.
Dans toute l'étendue, sur toute l'étendue du territoire, vous pouvez déployer 70 personnes. Sur toute l'étendue du territoire, Lomé seul. Est-ce que les 70 sont suffisants pour satisfaire la clientèle par rapport à Lomé seul et sur toute l'étendue du territoire?
Peut-être qu'ils vont utiliser l'IA.
Ah, non.
Des robots.
Est-ce qu'il y a une évolution?
Non, mais est-ce qu'il y a une évolution? C'est ça la question, M. Yamekou.
Aujourd'hui,
dans les négociations.
Aujourd'hui, nous sommes quand même arrivés à un statu quo parce que ce que nous avons espéré, nous étions allés au ministère de l'économie et des finances et nous pensons qu'en somme, nos autorités politiques, alors qu'elles sont arbitres, devaient nous mettre en confrontation avec l'employeur qui est là. C'est ce que les syndicats disent. Qu'est-ce que vous vous dites? Donc, on vous pose des questions de réponse. Et vous enregistrez les choses. Maintenant, vous dites, c'est ce que les syndicats ont dit, que pensez-vous? Nous n'avons pas pu avoir les employeurs en place. Plutôt, au moment où nous étions auprès de nos autorités, les employeurs ont commencé à faire encore de la gabegie au niveau de la banque, c'est-à-dire défoncer les portes des employés qui sont déflattés, défoncer leurs portes en leur absence. Encore en leur absence. Pour faire quoi? C'est ça qui nous a dit que non, l'employeur ne veut pas une négociation. L'employeur ne veut pas une négociation. Donc, à ce jour, nous, l'employeur lui-même, ne l'avons pas rencontré, mais nous avons rencontré le syndicat des employeurs, l'association des employeurs qui est la PBF, qui s'occupe des banques, et le CATS, qui s'occupe des compagnies d'assurance.
Mais quand vous les avez rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu
À leur niveau, par exemple, ils nous ont écoutés seulement. Ils nous ont écoutés parce qu'ils se disent que non. Ils ont écouté tout ce que nous avons dit, la gabegie qui s'est... Mais non, c'était écœurant. Maintenant, ils sont retournés pour vérifier la chose. Ils sont retournés. Puisque le lendemain, ils nous ont appelés encore à 16h. Lundi, on les a rencontrés. Mardi, on les a rencontrés. Au même moment, c'est après leur rencontre que nous étions passés chez M. Bawara. Donc, au second jour de leur rencontre, ils nous ont exposé, comme nous-mêmes, nous leur avons dit, que la réalité, c'est ça. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils peuvent imposer à l'employeur de Sonobank? Ils n'ont pas de force, parce que eux tous sont des dirigeants à un moment donné. Pour ceux qui se sont dit, on ne sait pas, ils ne vont pas nous le dire. Ils ne vont pas nous le dire. Donc, c'est ainsi que s'est passé nos pourparlers entre les employeurs qui sont nos dirigeants et nous-mêmes.
Et donc, actuellement, ces discussions sont au point mort, c'est ça?
Ces discussions sont au point mort.
D'accord. Gabin, une question?
Oui, puisque les discussions sont au point mort, doit-on s'attendre à de nouveaux jours de grève dans le futur?
Bien, nous venons de suspendre cette première grève. Nous allons suivre l'évolution de la chose avant de nous prononcer sur une nouvelle grève.
Ok. Mais maintenant, par rapport au fait que vous dites il y a la GABGI, des fonds qui sont transférés vers d'autres pays. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui au-delà même de la réintégration des 42 employés licenciés, est-ce que ce n'est pas un véritable problème de restructuration même de Sonobank qui se pose?
S'il y a véritable restructuration, parce que c'est ça aussi le motif de la grève, c'est-à-dire réintégrer les 42. Nous disons, vous qui êtes là, c'est vous qui êtes les exploitants de la banque, c'est vous qui prenez les décisions nécessaires. Et alors, vous dites, il y a de l'argent qui est sorti de la banque en flot et qui ne peuvent plus retourner à la banque. Qui sont ceux-là qui sont responsables? C'est les 42. C'est pourquoi nous disons non, que c'est un faux problème. Et la commission bancaire a tapé sur la table que c'est un faux problème. Les gars n'ont qu'à revoir leur méthode de gestion.
D'accord.
Leur méthode de gestion.
Merci, merci beaucoup, monsieur Nyamiku. Merci surtout de rester avec nous. Parce que déjà, à partir de midi, nous allons donner la parole à nos auditeurs. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Ça intéresse bien l'opinion. Donc, ils auront certainement des questions à vous poser. Toutefois, nous continuons le débat ici en studio. J'aimerais, c'est vrai, cette semaine, déjà plus précisément le lundi, nous avons suivi également la présentation, la présentation de ce rapport du PNUD par rapport à l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain. Et déjà, à travers ce rapport, on comprend tout simplement que le Togo a fait des exploits parce que le Togo est sorti alors de l'indice de développement humain faible à moyen maintenant. Et c'est un cap qui a été franchi. Là, on pourra dire, il y a le journal, Harakiri, qui revient bien sûr sur le sujet. Le journal écrit IDH, une performance saluée par tous. Donc, est-ce qu'on pourra dire que c'est justement une performance qu'on doit saluer?
Ben, c'est une grande performance qu'il faut saluer parce que le Togo quitte de l'indice de développement humain faible pour un indice de développement humain moyen, donc avec un score un peu plus élevé. Et quand on prend au sein de l'UMOA, au sein de la CDAO, déjà le Togo est deuxième et quatrième, donc deuxième après la Côte d'Ivoire. Et au niveau de la CDAO, donc deuxième et quatrième après des pays comme le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire. Et donc derrière le Togo, il y a une bonne dizaine de pays. Mais c'est des choses qu'on ne comprend pas quand on est citoyen lambda. On se dit, mais c'est chaud au Togo, comment on peut dire que le Togo investit beaucoup plus dans l'humain, au point où on estime que au sein de l'UMOA, notre pays est devancé uniquement par la CDAO. Nous sommes devant des pays comme le Bénin, où les gens s'amusent à dire ici, au Bénin, tout va bien et tout ça. Alors, le PNUD, comment il fait ses calculs? Il voit un peu les efforts qui sont faits par le pays pour mettre l'homme au centre des préoccupations. Donc, il y a certains critères qui sont pris en jeu au niveau de l'éducation, au niveau de l'intrusion, et au niveau de la santé, au niveau de l'inclusion financière, au niveau même de l'électrification, par exemple, qui est un point sur lequel le Togo a énormément travaillé ces dernières années. Et tout ça, c'est le résultat du PND et de la feuille de route qui ont été des programmes assez chiffrés sur lesquels le Togo a beaucoup travaillé. Et vous êtes surpris qu'on vous dise que le Togo est passé, par exemple, d'un taux d'électrification de 50 à 70% en 5 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le territoire togolais est couvert à 70% sur le plan énergie électrique. Mais quand vous allez dans un pays comme le Bénin, c'est à peine 51%. Ça veut dire que la moitié du Bénin est encore dans l'obscurité. Ici, c'est à peu près 30% du pays qui est dans... Mais les gens ne savent pas. Ils vous diront non, ici... Mais ça, c'est une organisation quand même assez... qui travaille sur les questions de développement dans le PNUD, qui évalue le pays et qui estime aujourd'hui que nous ne sommes plus à un niveau faible comme la plupart des pays. Nous sommes à un niveau moyen, pas élevé, comme les pays européens, les pays développés, mais quand même, ça va beaucoup mieux. Et c'est quand même des classements, c'est des rapports qui sont publiés pratiquement tous les ans par le PNUD et donc qui montrent quand même qu'au-delà de l'apparence de ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes de développement de l'humain, de ce que l'État fait pour que les citoyens se sentent beaucoup mieux et se développent. Donc c'est quand même, ça fait plaisir quand vous voyez un peu ce tableau publié par le PNUD. Vous vous rendez compte qu'on est devant des pays comme le Sénégal, le Bénin, le Mali et tout ça. On se dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que certains disent de leur pays, mais je crois qu'on a un peu beaucoup plus aveuglé par la vie chère. Hein. On se dit la vie est chère, donc rien.
Mais oui, justement, cette vie chère, est-ce que c'est parce que nous vivons?
Oui, mais la vie est chère partout. Même aux États-Unis, même en Chine. La Chine, qui est même l'usine du monde, la vie est chère là-bas. Contrairement à ce qu'on pense, que c'est un phénomène mondial. Maintenant, c'est que pour moi, je la définis un peu simplement, on a trop de besoins, alors qu'on n'a pas des revenus qui permettent de satisfaire ces besoins-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si peut-être qu'il faut travailler plus pour gagner plus, peut-être qu'il faut réduire certains de nos besoins pour pouvoir tenir. Mais la réalité, elle est là, c'est que chacun gagne véritablement, ne lui permet pas de faire face à ses besoins.
Voilà. D'accord. Gabin, oui, dans l'opinion, c'est vrai que cette performance fait débat, parce qu'il y a les uns et les autres qui disent, mais est-ce qu'il y a justement une concordance entre ce que nous vivons et ce que les chiffres alors de ce rapport nous proposent?
Ah oui, il y a le rapport des institutions de Bretton Woods et puis la réalité sur le terrain. C'est au Togolais de juger véritablement si le rapport quand même du PNUD hein, concorde avec la réalité sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, on le constate, hein, jamais vient de parler de la vie chère et d'autres choses. Bon, quand le panier de la ménagère est presque vide, alors là, c'est tout à fait normal que les populations se plaignent de ce genre de rapports qui sortent toujours. Ce n'est pas la première fois que ces institutions la pondent des rapports. À chaque moment, il y a de ces rapports qui sortent. Le Togo qui est tantôt premier ici, tantôt deuxième là, et ainsi de suite. Mais par après, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Est-ce que les Togolais arrivent véritablement à profiter des fruits quand même de ce travail-là? Parce qu'on dit ce sont des données macroéconomiques, données microéconomiques. Moi, je n'en sais absolument rien du tout parce que je ne suis pas économiste. Mais moi, ce que je veux, c'est que la réalité sur le terrain, ça doit se faire voir. Parce que quand vous allez quand même chez un commerçant ou bien vous ouvrez votre boutique, vous pouvez passer toute la journée 24 heures sans rien vendre, hein, sans rien vendre du tout. Et aujourd'hui, quand vous allez même au marché pour acheter du tomate, pour acheter du piment, tout est cher. C'est très onéreux aujourd'hui d'arriver à faire une sauce avec 3000 francs. C'est très compliqué. Donc, à un moment donné, nous, ce que nous voulons, c'est que ce genre de rapport, ça se reflète dans la réalité pour qu'on sache que réellement, notre pays est en train de fournir des efforts. C'est vrai, quand on prend le plan sur le plan de la santé, il y a des hôpitaux mères et enfants qui sont en train d'être construits. Et il y a, par rapport à l'éducation, il y a des nouveaux salles de classe aussi qui sont en train d'être construits de partout. C'est vrai, il y a des efforts qui sont faits, mais la réalité est que les besoins sont plus nombreux que les efforts qui sont fournis. Maintenant, c'est aux populations de savoir si, hein, en vrai, parce que quand on parle de l'IDH, hein, investi dans l'humain et tout ça, il n'y a pas que l'éducation, il n'y a pas que la santé. Il y a aussi le bien-être de la population, c'est-à-dire le manger, se sentir bien, le logement et tout ça. Est-ce que le Togolais arrive à satisfaire ses besoins comme cela se doit
avec son pouvoir d'achat?
Avec son pouvoir d'achat, le SMIG qui est à, c'est qu'en 2500, mais à chaque moment les prix des denrées de première nécessité flambent toujours. Donc c'est très compliqué pour le Togolais d'accepter les Nations Unies nous disent que non, le Togolais est en train de faire des progrès. Certains vont dire que non, peut-être ceux-là ils veulent perdre leur pays en noir. Ce n'est pas du tout ça, parce que nous sommes toujours heureux quand on dit que non, le Togo est en train de faire des progrès dans certains domaines. Maintenant, sur le plan matériel, est-ce qu'on arrive réellement à toucher ça du doigt? C'est ça le problème aujourd'hui.
D'accord. Oui, Elon, quand on prend cette performance aujourd'hui, avec les critères hein, bien définis, des critères sur lesquels même justement le PNUD s'est basé alors pour pondre alors ce rapport, mais est-ce que ça veut dire que ces critères ne sont pas liés à la réalité du Togolais?
Bon, quand nous avons eu le rapport, nous avons tous tiqué. On s'est demandé si on parle du Togo ou bien d'un autre pays. Parce que ça ne cadre pas du tout avec la réalité. C'est vrai, premier point. Des efforts sont faits par nos gouvernants. Chaque fois, on constate que l'indice du développement humain au Togo progresse. Mais au même moment, les besoins ou bien le fossé se creuse davantage. Donc, il y a une dichotomie entre ce qui se passe dans les rapports et la réalité des populations. Qu'est-ce qui se passe en réalité? D'abord, il faut savoir que c'est 16 institutions internationales essayent de caresser nos dirigeants dans le sens du poil. Parce que moi, j'ai lu.
Pourquoi ? Ils ont quel intérêt ?
Non, j'ai lu.
Oui,
j'ai
c'est
lu.
Pas l'intérêt.
Non, ils j'ai lu. Non, parce que, d'abord, parce que moi, j'ai lu. J'ai lu en détail. Je suis allé sur le site, j'ai vu les rapports, les sous-ingrédients, tout ça là. Il faut l'espérance de vie. Le Togo est à 62 ans d'espérance de vie. Il faut le niveau d'éducation. Il faut tel. Il faut aller juste à Zéglé ici. Il n'y a pas l'électricité. Il faut aller à Zéglé ici à 18h. Vous allez passer dans le noir. Moi, c'est pourquoi chaque fois quand il y a les élections...
Zéglé, c'est après Diablé.
C'est pourquoi quand il y a les élections avant, en tant qu'informaticien, je participe et au truc de recensement et qu'on sort. Il faut aller dans un petit quartier à Sabado ici, il y a des écoles en clair. C'est tout cela qui sont regroupés pour faire l'IDH. Parce que c'est les interrogations, c'est les statistiques en réalité. Si les Togolais qui répondent et les Togolais qui traduisent, qui envoient les informations, fausses les informations qui sont envoyées, fausses les statistiques, les réponses, tant mieux. Maintenant, si...
Là, ça veut dire que ça dépend de l'échantillon.
Ça dépend de l'échantillon et ça dépend de ce que la personne voit. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous appelés, les Togolais marchent en regardant vers le bas. On ne marche pas en regardant vers le ciel, malheureusement. Donc, d'abord, ces institutions, qui sont des institutions occidentales, travaillent à ce que les pays africains, y compris le Togo, ne se développent pas. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils estiment, parce que c'est écrit blanc sur noir sur leur rapport et tout ça, ils estiment que plus les pays africains qui ont les ressources à leur disposition demeurent dans la pauvreté et ne sont pas ambitieux, mieux c'est pour eux, puisque ils en ont besoin. Ils ont leur industrie, ils ont leur, ils doivent bien vivre. Maintenant, concernant nos dirigeants eux-mêmes, quand tu suis nos dirigeants, quand tu écoutes la radio, d'ailleurs, les populations n'écoutent même plus TVT. Parce que quand tu écoutes TVT, tu penses que à chaque fois il y a des rapports. Chaque fois, le Togo est premier dans tel domaine. Le Togo est premier dans tel domaine. À tel enseigne que tu penses que tu es au paradis. Mais en réalité, les gens ne continuent pas à crier que ça ne va pas. Donc, à un certain moment, il y a un problème. Si les Béninois ont dit clairement que ça ne va pas chez eux, que le Togolais dit que ça va, tant mieux. Mais moi j'ai lu, je suis parti sur. En détail, j'ai fouillé. Je ne suis pas satisfait par rapport à ce que je vois même à 40 km à la ronde de Lomé ici.
D'accord. Merci. Firmin, quelle analyse vous faites alors de ce rapport ?
Moi, je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est que bon, c'est comme nous compliquons un peu ce qui se passe. Moi, je ne voudrais même pas qu'on dise que le Togo a fait des exploits. Mais je voudrais juste simplement qu'on dise que le Togo évolue. Le Togo évolue.
Mais est-ce que ce n'est pas la même chose ?
Non, c'est-à-dire, en réalité, si, moi, c'est ça, je reproche à nos dirigeants. Ils devraient revenir aux dirigeants de faire un règlement de la communication par rapport à ce qui se fait. Vous voyez, c'est ce que le Bénin fait, et puis les gens croient que le Bénin fait quelque chose d'extraordinaire. Mais vous allez au Bénin, il y a une misère, pas possible. Vous allez au Bénin, il y a des gens qui reviennent au règlement du Bénin. Il y a des artifices, c'est beau, on a construit des choses, mais les Béninois souffrent. L'argent, si on dit l'argent ne circule pas, mais l'argent ne circule pas au Bénin. Enfin, talent fermé toutes les portes. Le business, comme il y en avait, ça n'existe plus au Bénin. Les gens galèrent. Aller à Dakar, il y a une misère extraordinairement compliquée à Dakar. Et si le Togo évolue, comment ça se passe ? C'est que, par exemple, je vous dis, Pascal, aujourd'hui, vous avez une moto. Les pauvres, est-ce que les pauvrissimes, ils peuvent s'acheter une moto de 600 000, de 500 000 francs ? Vous avez trouvé l'argent ? C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes en jean. Vous avez consommé. On va organiser dans les prochains jours la foire internationale. C'est des milliards. Vous savez, si on vous dit par exemple le taux de, ou par exemple combien de personnes ont participé à la foire en termes d'opérateurs communs, c'est des milliards qui circulent. Allez interroger toutes les banques qui sont là. Chaque soir, les opérateurs économiques prennent de l'argent, ce qu'ils ont vendu dans la journée, ce qu'ils ont eu comme recette, ils en vont déverser ça à la banque. Et c'est des milliards qui quittent là tous les jours. Mais ça, cet argent-là, ça vient d'où ? Du Togo, des Togolais. Donc le Togo évolue. Regardez, combien de maisons ont été louées cette année ? Les Togolais ont trouvé l'argent où ? Combien de maisons ils ont été loués ? Regardez, dans votre maison, peut-être, moi, j'en ai qu'en a plus. Je paye 10 000 tous les mois. Vous trouvez l'argent où ? On se dit vraiment, moi, pauvre, si on pourrait trouver l'argent pour aller payer 10 000 francs. Les pauvrissimes peuvent vous s'octroyer ce droit, ce petit privilège. J'envoie mes enfants à l'école, je trouve l'argent où ? Mais je ne suis pas du gouvernement, je ne connais pas le gouvernement. Vous vous imaginez ? Il y a des fois, je vais au marché, je prends 1 kilo, 2 kilos. Les pauvrissimes pourraient avoir ça. On trouve l'argent où, au fait ? C'est de ça. Regardez, par exemple, je connais des amis qui ont INAM. INAM, c'est 80%. Ça veut dire qu'il y a des produits qu'on va peut-être à 4 000. Ça veut dire quand vous vous souscrivez à l'INAM, fonctionnaire, bien sûr...
C'est-à-dire
vous... Oui, non, mais... INAM, oui. Donc, vous payez 1 000 francs. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont bénéficié. Il y a des gens, si n'eût été l'intervention de Inan, ils seraient déjà morts. Bon, on tient compte de tout ça. Si peut-être 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes bénéficient de l'islam, c'est l'investir dans l'humain. Regardez au niveau de l'éducation, il y a beaucoup d'écoles qui ont été construites. Il y a beaucoup de bâtiments. Donc, par exemple, on construit des bâtiments, on réhabilite des bâtiments, c'est des milliards qui sont injectés. Moi, je ne voudrais même pas, qu'on parle de pollution, de tout ça. Mais la réalité, mais il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a des quartiers, il y a déjà 2 ans qui n'étaient pas électrifiés. Mais le gouvernement a investi des milliards pour que ces quartiers-là soient électrifiés. C'est des milliards. Mais on tient compte de tout ça. Bien sûr, la vie. Moi, je n'ai même pas. Est-ce que moi, j'ai 2 000 dans ma poche aujourd'hui? Bien sûr, c'est chaud pour tout le monde. Mais quand on voit un peu ce que l'État injecte dans l'humain, c'est beaucoup. Donc, les institutions internationales tiennent compte de tout ça. C'est ça, en fait. Regardez, on a combien d'écoles privées au Togo? Vous croyez? Arrêtez. La minorité dont on parle. La plupart de leurs enfants sont à l'extérieur. Mais vous voyez, vous croyez que le fond, il a son enfant dans l'école privée de ma fille. Mais il y a plusieurs écoles privées au Togo. Mais qui vont dans ces écoles privées? C'est la majorité.
Pourquoi les gens vont là-bas?
Attendez, non.
Parce que le privé n'est pas bon.
Non, c'est pas du tout arrêté.
Il faut aller à Togo.
Non,
s'il vous plaît.
Oui, regardez, la majorité. Est-ce que la majorité est riche? Mais c'est parce qu'au sommet, on investit de l'argent. Et qui appelle, circule, et puis ça tombe dans le privé, et aussi, nous, on a un peu. Donc, si on ne dit pas les 5 dernières années, le Togo a évolué. Les 10 dernières années, le Togo a évolué. Les 20 dernières années, le Togo a évolué, considérablement évolué. Même si on ne voit pas de grandes bâtisses, mais ça évolue quand même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la bichette. Moi-même, je n'ai pas beaucoup d'argent.
D'accord, ok, merci d'avoir reconnu quand même que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Oui,
il y a une réalité. La réalité, quand nous prenons le golf, quand nous prenons même en face de Canal FM, là où nous sommes aujourd'hui, que moi je vais dans un coin à côté ici chaque fois, il faut voir l'école primaire qui est ici. C'est tout ça. Quand vous lisez le rapport et quand vous allez dans les détails, c'est tout ça qui constitue, en fin de compte, et le calcul. Parce qu'on dit, il faut former les gens. Côté éducation de ce IDH, il faut former les gens. Après avoir formé les gens, il faut que les gens puissent vivre la vie qu'ils estiment. Mais au Togo, est-ce que les gens arrivent à vivre la vie qu'ils estiment après avoir été formés? D'abord, le lieu de formation n'est pas adéquat. Les écoles primaires, en face ici, à Tokwentam, visitez Abe ici, à Gbadago. Voyez Gbadago ici, hein, au cœur de Lomé. C'est l'un des endroits les plus sales, qui est abandonné depuis 30 ans. Des fois, quand moi je suis CDQ, hein, moi je suis le développement à la base. Quand tu visites les gens, chaque fois, à la veille et le lendemain des inondations, finalement les gens m'ont dit, non, on ne va pas parler, on ne va plus faire de rapport. 30 ans qu'on est en train de faire ce rapport, le gouvernement ne savent pas que non, on ne va plus dire ça. Parce que les gens sont en compte d'aller quand il pleut. C'est vrai, des efforts sont faits. Il faut mesurer les efforts là à leur juste valeur. Quand vous gonflez trop les efforts, ça va donner autre chose. Aujourd'hui, même simple carte d'identité, on n'arrive pas à faire. Maintenant, on fait encore un autre projet pour dire qu'on veut accélérer l'obtention de la carte d'identité. Alors que c'est seulement l'administration qui doit bien fonctionner pour que les citoyens aient leur carte d'identité. Et on sort des choses, Ford Dreams et développement programme. Alors que l'existant n'a qu'à marcher. Le gouvernement fait beaucoup, mais c'est insuffisant. Il y avait un rapport. Excusez-moi. Je vais laisser la parole. Pour finir, il y avait un rapport sur le bonheur. Le Togo était dernier. Depuis là, le Togo ne participe plus. Moi, quand vous voyez, certains pays refusent de participer. Certains pays refusent de participer à ces indices-là. 2025, ils n'ont pas participé. 2024. Moi, j'ai lu le rapport du bonheur. Beaucoup de pays ne participent plus. Beaucoup de pays africains ne participent plus. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'en sorte.
Aucun pays ne participe.
Oui, jamais.
Non, là, vous vous trompez. Ce rapport d'abord qui est réalisé par un parlementaire britannique qui ne connaît rien même des pays dont il parle. Hein. Moi, j'ai lu, hein, la première fois, j'étais choqué. J'avais pris le premier rapport où il y avait la Libye qui était en pleine guerre, qui était plus heureuse même que la plupart des Ivoiriens et tout ça. Alors, je disais, mais c'est qui a fait ce rapport? Je cherche, je tombe sur l'auteur, c'est un individu qui vit en Grande-Bretagne.
Et pourquoi le pays n'a plus de rapport?
Aucun pays ne participe. Contrairement à ce que vous pensez, Glege, non, c'est lui qui analyse sur des bases qui ne sont même pas scientifiques. Et il détermine. Moi, j'ai dit même des pays africains auraient dû porter plainte contre lui. Parce qu'il salit l'image des pays pour rien. C'est pas un gars sérieux. Allez faire les recherches.
Non, pas tout à fait. Moi, j'ai vu ça sur le site.
Je dis, allez chercher. Vous affirmez même que le pays ne participe pas.
Oui, parce qu'ils n'ont
alors
pas
fait ça. Alors qu'aucun pays n'a participé. C'est quelqu'un qui donne des notes comme ça au pays gratuitement.
Pourquoi je dis que pourquoi
oui, mais
pourquoi
quand vous dites que quelqu'un participe, c'est comme le Togo dit, je vais à ce rapport et on me note. Non, je vous dis que c'est un individu. Un Anglais qui fait ça. Donc il faut vous informer. C'est pas un rapport sérieux. Moi, je crois que c'est comme l'Afrique. Hein. On profite pour nous. Ben, les Ivoiriens étaient choqués. Certains réagis disaient ils ont la joie chez eux. Parce qu'on ne peut pas venir leur dire qu'ils sont parmi les 10 premiers les plus malheureux de la Terre. Alors que les gars s'enjaillent là-bas tous les temps et disent non, ils ont contesté. Mais ici, on dit non, on prend ça comme un trophée, voilà le taux. Non, ce n'est pas un rapport sérieux. Faites des recherches sur l'auteur.
D'accord, moi j'ai réussi.
Vas-y, faites des recherches sur l'auteur de ce rapport.
D'accord, on va quitter le
voilà.
sujet.
Mais ce que je voulais dire.
Oui, jamais rapidement.
Oui, en réalité, vous savez, quand moi j'écoute, bon, lui c'est un politicien, beaucoup plus, il dit il y a ça. Vous avez vu, Mme Bridis Adiamagou a fait un travail remarquable à cette rentrée. Pendant le gouvernement dit on a essayé de faire des choses pour qu'il y ait une bonne rentrée. Elle est allée sur le terrain.
Justement.
Effectivement, elle a relevé des insuffisances. Mais ça ne veut pas dire que les efforts ne sont pas faits. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais il y a tellement de choses à faire. Donc, l'indice dont on parle, on n'a pas dit que le Togo est à l'image du Qatar ou de je ne sais quel pays où il n'y a pas de pauvres. Hein? Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais on prend des aspects, on prend l'accès à l'eau, on prend l'accès à l'électricité. Je donne l'exemple de l'électricité. Les gens disent que Talon a travaillé. Le Bénin n'est même pas couvert à 52% en électricité. Nous, nous sommes à 74%.
C'est pas vrai.
Mais vérifiez, je vous parle.
Non, ça, c'est les
patron,
chiffres.
C'est des chiffres vérifiés.
C'est des chiffres officiels.
Le Togo dit. Oui. Mais vous dites ça sur quelle base? Vous savez quel chiffre?
Je vous ai dit que moi j'ai visité. Allez ailleurs.
Patron, laissez ça. Vous avez quel moyen pour visiter quoi? Vous avez même un déplacement pour aller où? Vous connaissez où à part votre quartier?
Non.
Je vous dis. Non.
Je vous ai parlé de Yoto.
Non,
je vous ai parlé de Yoto.
Je vous parle de Chocou. Patron. Germain, c'est son droit de contester, de dire que c'est pas.
Oui, mais qui ne conteste pas des chiffres quand il n'a pas des chiffres contraires? Voilà. Tu n'as pas de chiffres contraires, ne conteste pas.
D'accord.
Voilà, on peut faire une guerre des chiffres, mais donne des chiffres que
moi,
voilà,
pas
tu
de
n'en
la
as
la
pas.
Moi, pas de la réalité.
Voilà, je veux bien que tu dises qu'il n'y a pas d'électricité chez toi. Donc, tout ce qu'on dit là, toi pour toi, il n'y a pas d'électricité au Togo. Ça, c'est
non,
vrai
je
aussi.
Dis pas ça.
Tu peux raisonner comme ça, oui, je suis d'accord. Mais je on dit, le Togo dit d'ici 2030, on veut avoir 100% du pays couvert.
Oui.
À quelle étape le Togo est aujourd'hui? Le PNUD dit le Togo est à 74%. Va chercher le Bénin à quel stade aujourd'hui? Pas plus de 52%. Moi, j'ai fait des recherches. C'est pas. Je fais des recherches, j'en parle, je te parle des chiffres. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous, les Togolais, on se dit rien n'est fait, en fait. À partir du moment où les gens ont des problèmes avec la vie chère, c'est que tout ce qu'on dit, on ne veut pas écouter, rien n'est fait, rien ne marche. Nous sommes dans le pays le plus malheureux de la Terre. Vous allez dans tous les pays. Moi, j'étais dans un pays à l'époque, il y avait des routes. Je prends un taxi, je dis, ah, vous avez de très belles routes chez vous. Le gars me dit, on ne mange pas les routes. Je dis, oui, mais moi, je viens d'un pays où il n'y a pas des routes comme ça. C'est pour ça que je vous dis, vous avez dit non, de laisser ça de côté. Mais j'étais choqué. À l'époque, j'étais choqué. Mais c'est la même chose ici. Quand quelqu'un dit le Togo fait bien, on dit non, laissez ça. Abidjan, c'est pareil. Je dis, mais comment Ouattara fait développer Abidjan? C'est terrible. Les gars te disent, je suis dans un taxi à Abidjan. Je dis, mais y a là, comment aller? Il dit, lui, c'est pas où les gens trouvent leur argent. Là. Lui, pour lui, rien ne marche à Abidjan. Mais quand vous êtes donc, c'est un peu ça. Mais seulement, il faut que nos pays apprennent, on apprenne à faire la promotion de nos pays. Et on le fait dans tous les sens. Vous voyez une pépite qu'on a, un gars comme Adebayor Chehi. Mais quand les Togolais parlent d'Adebayor, vous êtes déçus. Mais allez à l'étranger quand les gens parlent d'Adebayor. Donc, apprenons à valoriser notre pays, ses atouts, ses richesses, ses opportunités.
D'accord.
C'est important.
Merci beaucoup, Oui, Gabin, on va parler d'un autre sujet. Puisque notre temps évolue déjà.
D'accord.
Mais on va rester surtout alors dans la vie sociopolitique. Hein, et notamment tout ce qui se passe en matière alors de politique dans notre pays. Et il y a tout cela qui s'est transporté quand même à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est bien le mouvement M66 hein, qui justement a apporté cela aux Nations Unies. Et oui, il y a dans une interview même d'ailleurs hein, que Edo Agbodjan, connu sous le nom alors de Togo Big PC, porte-parole alors du mouvement du 6 juin, le M66 a accordé à Deutsche Welle, il dit ceci, le M66 n'est pas manipulé par personne. Le M66, c'est la voix des mères qui pleurent leurs enfants. C'est la voix des étudiants sans avenir, des travailleurs exploités, des prisonniers politiques oubliés. Nous n'avons besoin ni de Paris, ni de Washington, ni d'aucune capitale étrangère pour dire que nous voulons la liberté dans notre pays, le Togo. Et là, est-ce que ça veut dire que le M66 en question représente en quelque sorte la voix des déshérités?
Oui, bon, tout compte fait, c'est un mouvement aujourd'hui qui porte la voix de certains Togolais, dont beaucoup de Togolais se retrouvent, hein, bon, une frange des Togolais se retrouvent en ce mouvement-là. Et aujourd'hui, il s'agit aussi d'une guerre de communication entre ce mouvement et puis le gouvernement, parce que quoi qu'on dise, ce sont eux qui sont les lanceurs d'alerte, les donneurs de mots d'ordre de manifestations. Donc aujourd'hui, s'ils se retrouvent à ce stade-là, vous savez qu'on les a taxés que, bon, ce sont des gens qui, à un moment donné, sont manipulés par des pouvoirs sur les réseaux sociaux, hein, qui sont manipulés par d'autres puissances pour déstabiliser le Togo et tout. Bon, c'est à cela qu'il est en train de répondre par le fait qu'ils ne sont manipulés par personne, ils n'ont besoin d'aucune puissance pour leur dire qu'ils ont besoin de la liberté au Togo ou bien qu'ils ont besoin de bien vivre au Togo. Donc, moi, je donne la crédibilité pratiquement à tout Togolais qui, hein, à un moment donné, pense que non, on doit mieux vivre au Togo, on doit mieux faire les choses au Togo. Moi, je veux juste prendre cela. C'est vrai, il y a à un moment donné des écarts de langage et tout, mais il faut reconnaître quand même que, bon, ceux-là, ce sont des gens qui, hier, faisaient du béret, hein, sur les réseaux sociaux. Ils n'ont jamais imaginé se retrouver du jour au lendemain en politique, mais aujourd'hui, c'est chose faite. Ce sont des Togolais, ils ont tout le droit. Maintenant, c'est à eux de faire en sorte d'être beaucoup plus crédibles aux yeux de la population et aussi d'essayer de formaliser leur mouvement, parce que jusque-là, il s'agit d'un mouvement de fête et donc personne ne sait véritablement dans quoi il faut les classer. Mais c'est un échec pratiquement de la classe politique togolaise, hein, et le parti au pouvoir et les partis de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, ces partis-là se sont décrédibilisés aux yeux de la population, ce qui fait que, bon, les Togolais étant toujours à la recherche du Messie, se retrouvent à des gens qui, hier, étaient juste des berettiseurs sur les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est à ce à quoi on est en train d'assister, mais ce n'est pas pour les décrédibiliser, c'est tout à leur honneur, ce sont des Togolais, ils ont le droit de parler de la vie sociopolitique du pays, on ne peut rien dire.
D'accord. Oui, mais Firmin, déjà, qu'est-ce que vous pensez alors de cette attitude ou de cette action alors du mouvement? Est-ce que ça ne veut pas dire que le mouvement se prend au sérieux?
Non, ils s'embrouillent, c'est tout.
Donc, quand je parle alors du fait qu'ils ont amené, ils parlent alors de la situation sociopolitique alors du pays aux Nations Unies.
Non, ils s'embrouillent. Je le répète. Ils s'embrouillent dans la mesure où vous dites que vous n'avez besoin de Paris, de Washington pour parler de la liberté, mais vous êtes à Washington.
Mais c'est par rapport aux accusations, justement, qu'on leur porte.
Oui, oui, mais vous êtes à Washington. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont besoin de Washington. Au même moment, dans votre interview, vous dites que vous n'avez pas besoin de Washington. Et mais vous vous retrouvez à Washington pour que Washington puisse vous écouter.
Mais les Nations Unies, c'est pour tous les pays. Oui, hein, c'est pas pour Washington.
Non, c'est-à-dire que vous êtes la capitale, mais c'est Washington. Donc vous êtes là pour qu'on vous écoute.
À New York, oui.
Washington, bon, c'est la capitale, c'est les États-Unis, en fait. Donc vous dites que vous n'avez pas besoin d'eux, mais ils ont besoin de la puissance occidentale pour les soutenir. Mais ce qu'en réalité, les Nations Unies, c'est qui? Mais regardez, Poutine est venu en 2000. Il a tué des opposants, il les a empoisonnés. Washington n'a rien dit. Ou Paris n'a rien dit non plus. Les Nations Unies n'ont rien dit non plus. En 2022, la Russie a attaqué l'Ukraine. Les Nations Unies n'ont rien dit. Et on continue de tuer, de martyriser en Ukraine. Les Nations Unies ne disent rien. Est-ce que tout ça là se passe au Togo? Je ne pense pas. Ça fait depuis 2 ans, on tue des milliers de personnes à Gaza. Les Nations Unies ne disent rien. On demande juste aux Nations Unies de reconnaître l'autorité palestinienne comme un État. Parce qu'il faut une reconnaissance internationale pour qu'on puisse vous parler, pour qu'on puisse vous dire que vous êtes un État. Mais les Nations Unies ne disent rien. Il y a tellement d'atrocités dans le monde. Les Nations Unies ne disent rien. Et puis, c'est ce petit Togo. Les Nations Unies vont dire quoi? Il se passe, excusez-moi, nous savons que nous souffrons au Togo. Au Togo, c'est chaud. On manque d'argent, tout ça. Mais attendez, les Nations Unies vont dire quoi par rapport au Togo? Nous ne sommes pas une exception. Nous vivons, excusez-moi, nous vivons rien d'extraordinaire au Togo. Avant que les Nations Unies n'agissent ou n'interpellent le gouvernement togolais, mais il faut que quelque chose de sérieux se passe. Nous, ce qu'ils oublient, l'homme sensible oublie, c'est que nous ne sommes plus au XXe siècle. Peut-être début des années 90, cela aurait porté un certain fruit. Peut-être cela aurait peut-être impacté le pouvoir togolais. Aujourd'hui, on s'en fout. Les gens ont des problèmes. Ils vont se dire, mais qu'est-ce que vous avez? Est-ce que peut-être on organise des élections dans le pays? On va dire oui. Est-ce qu'il y a une opposition? On va dire oui. Maintenant, on dit, bon, est-ce que bon, il y a des opposants en prison? Vous allez dire oui. Mais en Égypte, il y a des centaines d'opposants. Mais Washington traite régulièrement avec l'Égypte à Sisi. Mais il y a des milliers d'opposants. Journalistes, acteurs de la société civile, acteurs politiques, il y en a des milliers. En Égypte, en prison. Mais on ne dit rien par rapport à ça. Vous savez, le monde, c'est une question de réseau et d'intérêt. Ce qu'ils sont en train de faire, bon, les gens ont fait ça au début des années 90, ça n'a rien donné. Moi, je demande à ceux qui nous gouvernent, moi, je fais toujours la différence entre le pouvoir et la démocratie. Ceux qui nous gouvernent, qu'ils fassent tout pour que les Togolais vivent bien, c'est tout.
D'accord. C'est vrai, il y a le journal Le Canard Indépendant qui titre sur le sujet « Crise politique au Togo, le M66 porte sa voix à l'Assemblée générale de l'ONU ». Est-ce que vous pensez vraiment que cette voix sera audible?
Bon, c'est une opportunité qu'ils ont eu à saisir, tant mieux. Mais comme M. Fimel a dit, la fin de la chose ou bien l'utilité de la chose, c'est que nous puissions, en Togolais, nous rencontrer, discuter et travailler pour l'amélioration réelle des conditions de vie des populations. C'est l'existant, ce que nous voyons au jour le jour. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, il y a, c'est vrai, le M66 qui conteste, mais avant le M66, il y a des gens qui avaient contesté, qui continuent de contester, il y a les gouvernants. Donc, il faut que les gouvernants et les partis politiques traditionnels et les gens de la société civile, tout ce beau monde-là, se retrouvent, discutent et voient comment faire avancer le pays, le Togo. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il va falloir que, au-delà du M65 ou bien à côté du M65, ça reflète un besoin aujourd'hui pour les Togolais de se parler avec l'opposition, les gouvernants. Et c'est aux gouvernants, d'abord, d'appeler à ce dialogue-là pour faire avancer le pays. Et si possible, si le gouvernement ne le fait pas, il faut que la classe politique de l'opposition aussi arrive, ou bien demande à rencontrer directement, moi je le dis souvent, directement le PC, pour parler des questions d'intérêt supérieur pour la nation et pour l'amélioration des conditions de vie réelles des populations, au-delà des chiffres.
D'accord, oui, j'aimerais pour lui, quelle appréciation vous faites alors de cette attitude alors de M66?
Oui, mais en fait, on parle d'un truc qui n'existe même pas. On dit le M26, c'est aux Nations Unies, mais c'est
M66.
Faux. Le M66, c'est faux. Mais les gars ne sont pas aux Nations Unies, ils sont dans certaines rues à Manhattan, très loin du siège des Nations Unies. Les gars ne sont pas accrédités pour entrer même aux Nations Unies, ils n'ont jamais mis pied là-bas. Mais je ne sais pas, on parle d'un truc qui n'existe pas. Ils sont invités par un Togolais, ils n'ont aucune accréditation pour aller même à 100 mètres des Nations Unies, ça n'existe pas. Mais ils sont allés peut-être pour rencontrer des gens à New York, mais pas aux Nations Unies. Ils sont allés peut-être avec un document sur la situation au Togo qu'ils veulent distribuer, mais ils ont rencontré quel officiel depuis la personne? L'interview dont vous parlez sur Dachewele, elle est accordée par un journaliste togolais qui s'appelle Jean-Claude Abalou. Mais voilà, vous êtes togolais, vous allez rencontrer un togolais qui vous accorde une interview, vous publiez, vous dites Dachewele, vous êtes... Ils ont rencontré quel officiel? Personne, ça n'existe pas. Vous le voyez dans les rues là-bas, quelqu'un porte un badge de l'ONU. Ils ne peuvent pas aller à l'ONU. Ce qu'on dit, ils sont allés aux Nations Unies, ça n'existe même pas d'abord. Oublions ça d'abord. Ils ne peuvent pas aller. Ils ne peuvent pas aller aux Nations Unies, c'est pas possible. Ils n'ont pas l'accès aux Nations Unies. C'est inimaginable. Moi, j'ai fait une fois les Nations Unies pour avoir le badge déjà la veille. Mais c'est toute la journée que vous passez là-bas. Et moi, je les vois se balader à Manhattan, là, avec des vestes. Il n'y a aucun badge. Ils ne peuvent pas. Ils sont peut-être même à un kilomètre des Nations Unies. Maintenant, je dis la vérité. Parce que c'est tellement quadrillé. Il y a au moins 8000 policiers et gendarmes là-bas, actuellement. Mais c'est terrible. Donc, en parlant d'ils sont aux Nations Unies, ça ne correspond à rien. Ça, c'est déjà faux. Donc, il ne faut même pas partir de là pour développer des choses qui n'existent même pas. Réellement, ça n'existe pas, c'est du faux. Moi, je crois qu'ils veulent distraire les gens. Bon, ceux qui le voient dans les rues de New York pensent qu'ils sont aux Nations Unies, Mais ça n'a rien à voir avec la
D'accord, société. Ok. Mais merci beaucoup, cher confrère. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs qui s'impatientent à rentrer en ligne pour se prononcer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Je rappelle que nous sommes toujours avec M. Nyami Koukoudzo qui est secrétaire général à l'ordre de Saint-Banc. Bien sûr, il nous a parlé, bien sûr, alors de cette grève et la suspension même d'ailleurs de cette grève. Nous vous donnons la parole. Vous pouvez vous exprimer sur le 90 86 35 35 91 36 63 115 et aussi sur le 90 45 78 56. C'est notre numéro WhatsApp. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 115 et également nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, M. Pascal.
C'est M. Mawena.
Oui, M. Pascal. Comment vous allez?
Ça va pas la grâce. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, allez-y.
Salut l'invité aussi. J'ai une question à l'invité. Moi, je me demande à l'équité. Ils n'ont pas fait le constat que c'est la politique est rentrée dans l'affaire là. Ils n'ont pas fait ce constat que la politique, la main de la politique est dans cette affaire.
Alors, pourquoi vous dites que la politique est rentrée dans cette affaire, M. Mawena?
Parce que l'affaire là, du tout, depuis là, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Même si c'est ministère, si Barra est rentrée dans ça, si on peut résoudre ce problème, ça serait exprès. C'est parce que le veut le rien faire. Mais c'est le ministère de ce que le Seigneur va dire, ce qu'on va arranger dans sa paix, il n'y a pas de solution. Moi, ça me tombe.
Mais quand vous parlez du ministre, le ministre Bahara, c'est le ministre à l'heure du travail.
Mais non, si on veut trouver une solution, on va le trouver tout de suite, la mission de M. Pascal. Bon, et pour les autres sujets, M. Pascal, moi, c'est vous qui dirigez l'élection. Est-ce que, si vous posez la question à M. Pouli, je ne sais pas, j'ai oublié un peu son nom.
Vous voulez parler de Fimer?
C'est vrai. Est-ce que leur analyse, leur réponse, ça vous a fait?
M. Mawena.
Oui.
Moi, je suis intéressé par vous, votre analyse. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que nous avons dit?
Je lui pense que M. Pouli, Pascal.
Non, mais non, monsieur, non, monsieur Mona, merci. Allez, on prend notre auditeur, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 115. Allô?
Yannick?
Bonjour.
Bonjour, Canada FM.
Richard, j'espère que vous allez bien depuis Copenhague.
Richard de Copenhague.
Oui, allez-y.
J'aimerais participer à votre débat du jour. Bonjour, Togolais.
Et bonjour.
Je peux dire. Pour l'histoire de ces jeunes de M66 aux Nations Unies. Vous avez essayé de débattre, comme vous nous l'avez dit, c'est un truc qui n'existe pas. Non seulement, c'est une association, un mouvement qui n'a même pas d'autorisation, nous ne sommes même pas liés à l'ONU, nous ne sommes même pas un représentant de l'État. Et vous voyez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est ce que ces jeunes voudraient que le Togo se ressemble. Vous êtes des grands journalistes, que je respecte beaucoup, et surtout sur votre radio, c'est une radio très écoutée. La preuve que il y a un compatriote ici au Damaki, religieusement. Moi, simplement, nous disons que c'est une association de bandits. Excusez-moi ce mot, parce qu'il n'apporte rien. Si quelqu'un voudrait faire un combat, de manifester autre, il y a les têtes qui le protègent, qui nous demandent, viens sur le terrain et vous le faites si bien. C'est vrai. C'est pour cela, vous voulez Si tu m'écoutes, bah, tu peux nous suivre d'abord. Contacte-moi pour qu'on parle. Merci.
D'accord, merci. Bon vendredi à vous. Merci beaucoup, Richard, et bon vendredi à vous aussi. 90-86-35-35-91-36-73-75. Bonjour, Pascal. Bravo pour l'émission d'aujourd'hui. Les débatteurs sont des spécialistes. C'est Tei Kossi qui nous écrit. 90-86-35-35. Allô?
Bonjour, Pascal.
Bonjour, Patrick. Comment vous allez?
Ça peut aller, je vous...
J'allais dire l'autre commandant.
Affirmatif. Je salue tous les autres confrères aussi qui sont là-bas. Tout d'abord, une question pour votre invité.
Oui.
Est-ce qu'ils ont eu à contacter aussi la Santif, puisque cette institution aussi lutte pour les banquiers et des fonds qui sont vraiment transités par raison. Cette institution lutte contre tout ça. Est-ce qu'ils ont eu à contacter cette institution pour avoir plus de décisions sur ce qui se passe à leur niveau?
Patrick, vous parlez de quelle institution?
La Santif, la Cellule nationale de traitement des informations financières.
Ok, d'accord.
Voilà. Bon, non, pour finir là, je crois que monsieur, notre ami de vous n'aimez pas qu'on parle de ces genres de trucs. Je connais bien les principes, je le répète, mais excusez-moi. Si on veut donner son point de vue, il ne faut pas qu'on insulte les gens. Au moins, respectons la personnalité des gens. Dire que des gens sont... Moi, je n'ai rien à foutre avec cette association, mais le franc-parler, c'est-à-dire les principes de cette émission, il va falloir qu'on les respecte. Il ne faut pas traiter les gens de bandits. Si vous voulez donner votre opinion, allez-y clairement pour qu'on puisse vous comprendre. Bonne émission.
D'accord, merci beaucoup à vous, Patrick, pour votre intervention 90-86-35-35-91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez, monsieur Mautor?
Oui, salut le plateau.
Oui, salut.
Monsieur l'invité de Soulubank, pourquoi ils ont encore...
Non, pas l'invité de Soulubank, s'il vous plaît. Vous nous avez suivi?
Oui.
Non, pas l'invité de Soulubank. On est avec Saint-Bank.
Saint-Bank. Pourquoi a-t-il encore suspendu aujourd'hui la grève?
Est-ce que vous nous avez... Oui, monsieur Mauna.
Oui,
monsieur, pardon, Mauto. Oui, est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez suivi l'émission?
Ils ont suspendu... La grève était prévue pour 3 jours, non?
Oui.
Vous, aujourd'hui, ils ont délaissé. Pourquoi ils ont délaissé encore?
Justement, ils ont donné la raison dans l'émission. C'est pourquoi je demandais si vous nous avez suivi.
Ils viennent de commettre une deuxième erreur. Votre âme de technicalisme. Vous avez laissé. Pourquoi? Au premier abord, ils ont suspendu le premier grève. Vous pensez que ce qui se passe avec vous, les autorités ne sont pas au courant? Monsieur Barra, il sait tout. Vous avez une discussion avec Monsieur Barra, c'est que vous allez nous aller avant quoi? Ils sont prêts à vous sacrifier et vous sauver leur intérêt. Maintenant, pour me voir un transitien, pardon, monsieur Pascal, par rapport à vous faites des poids de mesure, pourquoi vous avez laissé ce monsieur du député Amak à indiquer nos compatriotes? Nous continuons dans cette chose-là. Donc, une chose de faire matériel au Togo, pour certains, lorsque le régime est fini, le marché est fini. On les comprend. Merci, bonne émission.
Merci, M. Mauto, pour votre intervention. 90-86-35-35-91-36-73-75. Allô?
Allô, bonjour, cher journaliste.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien, monsieur.
C'est monsieur Abouvon.
Bien sûr.
D'accord, allez-y.
Je voudrais féliciter tous les journalistes togolais. En particulier, bon, les journalistes étrangers de Mediapart, de nous avoir rendu un travail à saluer. À propos de M. Sarkozy, là, c'est pourquoi je connais maintenant la force des journalistes. Merci beaucoup.
Merci, M. Abouvo, pour votre intervention. 90-86-35-35-91-36-73-75. Allô?
Oui.
Bonjour, Pélé.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je salue le plateau. Pascal, je pense que pour M. Richard, est-ce qu'on peut dire que c'est un imbécile?
Non, on va pas quand même arriver là, Pélé.
Oui, il faudrait que, parce que votre émission est une grande écoute. Est-ce que c'est un imbécile? C'est une question que je lui ai posée. Prochainement, il faut qu'il réponde à ça.
Allô, Pélé?
Oui,
mais puisque c'est vrai, nous sommes en train de faire une émission.
Mais il avait insulté les autres tout à l'heure. Vous n'avez rien dit.
Non, mais écoutez, non. Et Pélé,
C'est intéressons-nous bien sûr au sujet, bien sûr. Et quand il parlait, tel que les uns les autres l'ont dit, il est très important quand même qu'il y ait de courtoisie dans cette émission. C'est important.
Oui, ça m'a intéressé parce que le Togo, c'est une question de morale. Comme tous les moularis. Donc il va falloir que les gens se respectent. Maintenant, M. Sarkis, ils étaient à 1000 km, mais ils ont fait déplacer la réunion de la CEDEAO. Ils étaient à 1000 km, plus de 10 000 km, ils ont fait déplacer la réunion de la CEDEAO. Alors, je pense qu'à n'importe quelle, quelle que soit la distance qu'ils sont à l'ONU, on s'en fout de ça. Mais de Saint-Cassé à Jean-Cassé, ils sont sur le terrain. Et bon, je voudrais parler de l'indice, tu vois. Hier, j'avais parlé de ça. Au pays des aveugles, les bornes sont des rois. Quand des gens vont dire qu'au Togo, le Bénin, des gens veulent comparer le Togo de l'île, c'est parce que des gens n'ont jamais traversé la frontière pour aller. Même si c'est dans 2 mois, 3 mois, il faut que des gens aillent pour aller voir. Je voudrais parler du secteur, prenons le secteur sportif au Togo, du football au Togo, Togo-Bénin. Quel est le classement de la FIFA au Togo? Au Bénin. Mais pour le classement de la FIFA, c'est quelque chose qui se voit sur le terrain. Mais tout ce qu'on voit, il a dit derrière tout ça là, c'est sur le papier. Sur le papier, le Togo est toujours premier. Mais sur le terrain, le Togo est dernier. Le Togo a été décrété le pays le plus malheureux de la sous-région. Mais je pense que c'est l'année dernière seulement que l'État se voulait même verser de l'outil sur le poubelle pour que la population aille manger. La punition. La nourriture est périmée et encore sur les poubelles.
Mais on amène la population. Allô. Oui. Il faut pas quand même qu'on fasse d'amalgame, monsieur Pelé. Quand vous, oui, dites, vous dites que l'État togolais a versé des nourritures sur. Non, mais non. S'il vous plaît. Il faudrait quand même que, quand nous voudrons dire les choses, disons les choses également avec véracité et exactitude. Merci beaucoup, monsieur Pelé, pour votre intervention. Je pense que notre heure aussi a avancé. Nous allons revenir en plateau pour faire le tour de table avant de mettre fin à l'émission. Jamais Pouli, vous avez écouté les uns les autres, votre réaction?
Ce n'est pas une grande réaction à faire, si ce n'est que dit qu'il y a eu aussi un autre classement dont on n'a pas parlé, c'est la sûreté aérienne au niveau de l'aviation civile. Le Togo est classé 2e en Afrique et 3e au monde. On n'en a pas parlé, mais quand j'ai vu ce classement, je n'étais pas surpris parce que la dernière fois, j'ai pris un vol au Ghana, à Accra, pour aller à Dakar. J'ai pris une compagnie dans laquelle les sièges tombaient comme dans les bacs des Ivoiriens, même sur nos routes ici, les 15 places et 18 places. J'ai jamais vu ça. Et ça tombait, hein. Et j'ai dit, cet avion ne peut jamais atterrir au Togo. Et quand j'ai vu ce classement, je me suis dit, oui, il y a un sérieux qui est fait. Donc, quand vous allez au Ghana, l'aéroport est extraordinaire, hein, c'est bien grand et tout ça. Mais il y avait une compagnie nigériane, là j'ai pris le vol, mais c'est comme dans un vieux minibus. Et je ne sais pas comment un tel avion peut atterrir dans un pays sérieux comme le Ghana. Et donc, quand on dit que le ciel togolais est plus sûr par rapport à tout ce que le Togo fait, quand je me suis rappelé cette expérience-là, j'ai dit, mais c'est sûr que ce classement-là, le Togo le mérite. Alors, ceci pour revenir à l'IDH, pour dire que nous faisons de très belles choses dans notre pays. Faisons un peu comme les Français, valorisons ce que nous avons et nous allons grandir. Les Français n'ont rien d'extraordinaire. Tout ce qu'ils savent, c'est se vendre. Parler bien de la France. Tout ce qui est français pour eux, c'est le top, c'est la qualité. D'accord. Et ils se font de l'argent à rien qu'en vantant les mérites. Et nous avons beaucoup de choses au Togo. Pensons maintenant à les valoriser, à faire la promotion de notre pays.
D'accord, merci Gerbin. Oui, Gabin.
Oui, j'aimerais remercier quand même les auditeurs, mais à un moment donné, il faudrait qu'il y ait de la courtoisie. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a à un moment donné, flancher, que nous aussi, nous allons le suivre. Ce n'est pas du tout normal. Nous sommes tous des responsables ici. Personne ne quitte sa maison pour venir au plateau et puis déblatérer des choses, hein, pour déplaire quand même les auditeurs. Donc, faisons les choses dans les normes. Si nous voulons être respectés, alors respectons en premier. Et pour le cas de Sunubank, j'exhorte les autorités à faire en sorte que ces 42 employés-là soient réintégrés et surtout que cette banque-là soit restructurée, parce que nous avions connu la caisse d'épargne du Togo et autres. Là, ça nous a permis qu'on paye nos scolarités et autres. On ne veut pas faire voir disparaître quand même, hein, cette banque. Donc, vivement que les autorités prennent cela à bras le corps et surtout que l'autorité prenne la responsabilité de protéger les employés togolais dans tous les secteurs dans lesquels ils sont en train de travailler.
Merci beaucoup, Gagbin. Oui, Elom.
Oui, merci beaucoup et merci à vos auditeurs et aux échanges ici. Je pense que moi, je vais intervenir sur l'indice. Il faut dire en conclusion que les autorités togolaises font beaucoup d'efforts. Malheureusement, c'est insuffisant. Et souvent, moi, j'ai l'impression avérée que les chiffres sont trop mirobolants par rapport à la réalité. Et il va falloir qu'on s'attelle beaucoup. On continue à faire comme on le fait et on s'attelle beaucoup à corriger la réalité. Et au demeurant, on n'a pas besoin forcément des autres pays ou bien des autres institutions pour évaluer la progression de combien de personnes sortent de la pauvreté dans notre propre pays. C'est le rôle des gouvernants et ils n'ont qu'à s'y atteler en s'attachant à la vérité des choses.
Moi, je voudrais demander à nos autorités de travailler beaucoup plus, encore plus, mais de communiquer aussi beaucoup. En fait, il y a beaucoup de bonnes choses qui se font, surtout quand vous allez à l'intérieur, vous découvrez un certain nombre de choses, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et puis quand vous suivez l'actualité d'autres pays, vous vous rendez compte qu'en réalité, le Togo n'est pas un pays particulier, que le Togo c'est un pays normal, mais nous considérons souvent le Togo comme un pays particulier, mais que les autorités communiquent, intensifient la communication par rapport à ce qui se fait. C'est dans une des interviews d'Emmanuel Macron que j'ai appris qu'il y a des centaines de Français qui vont à l'école ventre vide. J'ai jamais appris ça dans certaines communes. Or, nous sommes en France, c'est la cinquième puissance du monde. C'est un des pays les plus riches au monde. Donc, mais dans ces pays, il y a des enfants qui manquent encore de cantine scolaire. Alors qu'ici, on a déjà enclenché ce processus. Donc, la communication s'intensifie. Et là, les Togolais sauront véritablement qu'il y a des efforts qui se font.
Merci beaucoup, M. Nyamiku. Nous sommes à la fin de cette émission. 30 secondes pour votre mot de la fin.
Et merci beaucoup. Nous aussi, nous avons bien voulu, au niveau du Saint-Banc, que l'autorité politique puisse s'impliquer davantage dans cette affaire de Sunubank, afin que nous puissions trouver une solution idoine, c'est-à-dire de remettre les 42 personnes à la place, au lieu de continuer à penser qu'on veut faire une restructuration. Parce que le lendemain, on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Est-ce que les autres banques ne vont pas se lancer aussi dans le jeu et renvoyer nos frères qui sont en train de travailler dedans, parce que la plupart de ces banques sont expatriées.
D'accord. Merci, M. Nyamiku Kudzo, d'être passé alors dans cette émission. Merci, Germain Pouli. Merci d'être passé dans cette émission, Gabin Diarro. Germain, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Togo Réveil, Gabin Diarro. Merci d'être passé dans cette émission. Vous êtes juriste et analyste. Merci d'être passé. Elom Madalmeda, merci d'être passé dans cette émission, analyste aussi, et aussi conseiller régional. Merci d'être passé. Firmin Tako Agbo, merci d'être passé dans cette émission. Merci. Chroniqueur, merci, hein, journaliste et chroniqueur. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouté était à la mise en ligne. Je suis Pascal Loussou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Vous passez un bon week-end. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.